Bonjour à tous, je suis Dylan Malone, toujours président du Berserkers MC, où on parle de diverses choses toujours liées à la pop culture, donc cinéma, séries, univers des comics, qui sera la thématique du jour, hein, comme vous voyez le titre, la Pulp Fiction aussi, donc c'est notre interprétation des fanfictions qu'on fait un peu entre nous, surtout secondé par l'ours Martin qui va se représenter pour ceux qui ne le savent
Ah,
pas de suite.
bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je suis l'ours
Voilà.
Martin, moi toujours vice-président du Berserkers Media Chronics, et voilà, je seconde l'ami Dee Malone dans sa réécriture fanfic du MCU. Voilà, on a aussi du
C'est ça.
DCU, hein, pour ceux qui sont plus DC. Moi,
Ouais.
pour moi, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de. On ne va pas laisser le malheureux sur le bord de la route. Alors, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les Howling Commandos. Certains doivent savoir déjà qui c'est.
C'est ça.
Et ben, je vais peut-être vous laisser, du coup, avec Dylan, en parler un peu plus, puisque c'est une
C'est ça.
histoire issue de sa prolifique, de son esprit prolifique. Voilà.
C'est ça. Donc voilà, troisième volet de notre première phase reboot du MCU. Si on l'imagine comme ça, parce qu'évidemment, on se doute qu'avec toutes les productions qu'ils ont en cours de route chez Disney et dirigées par Kevin Feige, que ce jour n'arrivera pas, mais voilà, on se l'imagine par pur plaisir, un peu de gros fans, voilà. Donc les Howling Commandos, en quelque sorte, pour ceux qui ne savent pas, hein, parce que vous allez comprendre la suite de notre histoire. C'était déjà une équipe qui est apparue dans l'MCU, dans le premier Captain America de First Avenger. Donc c'est vraiment une ancienne équipe, mais pas aussi importante que les 4 Fantastiques ou encore les X-Men, bien que old school, qui ont donc la plupart de leurs récits sur papier liés au Captain America, beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, autant des comics anciens que récents. Donc je vous l'ai dit, on les voit dans les MCU et surtout aussi, comme plein d'équipes, dont les X-Men, il y a plusieurs reboots, si je puis dire, c'est-à-dire réécriture de l'équipe. Donc dans un comics que j'ai, cette équipe est avec Deadpool et ce ne sont pas les gars militaires qu'on voit aux côtés du Captain America, ce sont des créatures fantastiques comme la créature de Frankenstein, un loup-garou, encore une momie. Donc voilà, c'est souvent comme ça dans l'univers des comics, réadaptation de certains personnages, de certaines équipes, ça propose de nouvelles choses quelque part, nouveaux angles de vue. Donc là, on part en fait sur un récit de guerre très proche d'Overlord, pour ceux qui ont pu le voir. Donc a rien à voir avec l'opération de guerre du même nom, voilà, qui était produit par J.J. Abrams, pour ne citer que ça, voilà, pour ne pas
J'invite
le
les gens à le
trop.
voir. Voilà, les personnes qui aiment bien la guerre et l'horreur, ils peuvent. Elles sont fantastiques, c'est
Fantastique, ouais,
exactement ça. Vous pouvez y
c'est
aller.
ça. Bon, mais on peut le dire, hein, il y a un peu des gens zombifiés. Voilà, on va utiliser ce terme entre guillemets parce que c'est un peu réadapté à leur sauce et c'est cohérent avec ce qui se passe dans l'histoire. Voilà, il y a une certaine
Un petit vent de
cohérence,
fraîcheur sur le film de zombies de ces dernières années. Voilà, moi j'ai
c'est
trouvé.
ça. Du coup, Howling Commando, très inspiré. On commence, voilà, après cette petite introduction, comme on. Voilà, je vous l'ai fait des familles. Toujours, comme pour tous les autres récits qu'on vous invite à aller écouter, hein, autant MCU que DCEU, entre guillemets, 5 à 10 minutes grand max. Souvent, au cinéma, ça dure moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit grand max avec des guillemets, parce que avec les cadrages et tout ça, ça peut aller très vite. On pourrait voir à l'écran inscrit, là, donc c'est vraiment le premier truc, peut-être avec une sonorité, et comme dans certains films, vraiment. Presque, on entendrait que c'est tapé manuscrit, voilà, écriture militaire, quelque part en Allemagne, automne 1942. Et en fond, on commence à voir apparaître une ville, un village, voilà, je vous laisse imaginer, peut-être un village, on est en campagne, tout ça. On verrait un homme un peu baraqué dans l'ombre se prendre des coups par des soldats nazis en train de rigoler, voire de s'amuser. Donc voilà, effectivement, ça va être plus profond que ça au fur et à mesure du récit, mais voilà, on est sur ce genre de
On
situation
précise
avec
bien
ces
que c'est les
soldats
soldats qui
SS-là.
rigolent, hein, pas l'homme en train de se prendre des coups.
Voilà, c'est ça. L'homme sort de l'obscurité. On y voit. Donc, quand je dis l'homme sort de l'obscurité, on voit un peu plus son visage rapproché. En fait, pas certains auront peut-être capté la référence de cette scène pré-générique, si je puis dire. L'homme sort, donc sa tête s'éclaircit un peu. Et moi, je le vois un peu typé à la Joel Kinnaman, donc ceux qui ont vu Robocop, la nouvelle version en tout cas, et Altered Carbon ou encore Suicide Squad, voilà.
Oui, ou
Voyez un
For
peu
All
plus ou
Mankind,
moins.
parlons des bonnes
Oui.
choses.
Oui, c'est ça, All Mankind ou encore The Informer, il y a des bonnes choses avec Joel Kinnaman, hein, voilà. Donc là, il serait suspendu par les mains, une poutre, hein, voilà. La caméra se rapproche, donc là, on fait évidemment, on a montré son visage, on peut s'imaginer plan serré, vraiment pour faire comprendre que c'est pas un moment très super sympa, voilà, pour lui à vivre. Et puis des plans plus larges pour montrer que les SS prennent leur plaisir, voilà. Mais je chipote un peu là pour le côté réalisation. Un soldat auprès de lui et un soldat vient auprès de lui et la victime de suite. Mais un coup de tête à ce dernier, voilà. On l'a dit, ça démarre assez vite, c'est punchy. L'homme détruit la barre où il était suspendu, barre ou poutre. Hein. Il les bat tous à coups de poing, tel un excellent boxeur, et éjecte à coups de pied l'approche de la scène, une des scènes d'introduction du Captain America 2. Donc là, on reste dans le MCU. Winter Soldier, je sais pas si vous vous souvenez quand Cap est avec l'équipe de Strike, Romlo et tout sur le bateau, sur un des héliporteurs, le Lémurien, les Lemurian Stars. Voilà, ça remonte un peu loin, mais voilà. Et qui met un fameux shot et qui récupère son bouclier. On est proche de ce genre d'action, c'est vif, net et précis, comme je l'ai dit. Et de nouveau à l'écran, pour clôturer un peu cette première grosse scène, on y apercevrait un écrit Search point nomade Rogers. Voilà, fermez les guillemets. On se
Sergent
retrouve en
Nomad
extérieur,
Rogers.
donc
Non, ça me
c'était.
ferait pas.
Voilà,
Imaginez un petit
sergent.
peu comme les films à la de Tarantino avec le nom qui éclate comme ça en dessous d'un personnage avec l'image figée, quoi. Vraiment pour le présenter
C'est
et
ça.
l'iconiser.
On peut même dire hein, que je disais plus tôt, certains auront peut-être reconnu la référence. On en parlait il y a déjà quelques moments avec Martin. Le film éponyme, L'Agence Touriste, a fait une intro totalement similaire.
Tout à fait.
Voilà. Donc directement, en voulant introniser, si ça se dit, notre capitaine, tout premier capitaine américain, hein, Steve Rogers, je me suis dit. Enfin voilà, c'est venu naturellement. Je me suis dit, ça pourrait être très cool de faire quelque chose dans le genre là. Donc on revient à l'histoire. On est en extérieur. On voit deux à trois hommes. L'un est moustachu. Voilà, c'est vraiment pour les petits détails, différencier nos personnages principaux, je vais dire. Pilosité noire, cheveux très courts et occupé à cuisiner au milieu d'une route ou d'une place où des soldats nazis, je l'ai dit un peu plus tôt. Quitte à ce que j'ai été rapide, un nazi lui demande ce qu'il fait. Donc voilà, ils ne se comprennent pas évidemment. Il leur parle en italien avant de reprendre en anglais. En somme, il est distrait pendant que l'un, John Boyega type, un afro, donc John Boyega, un peu Détroit, la saga, nouvelle saga Star Wars, enfin, nouvelle trilogie qui a été terminée, installe des explosifs près de l'entrée du bâtiment. Et là, même chose que le précédent, on voit un écriteau à l'écran. Tech Falcon Wilson, donc là c'est technicien 5e classe, comme il y a souvent dans ces petites escouades de Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans ce qu'on peut voir à l'écran. Boum, explosion, un jeune homme barbu débarque. Voilà, si certains ont pu me voir en photo, on se rapproche un peu de ça. Donc un grand mince, comme j'ai dit, barbu, un peu tracé, débarque, commence à tirer sur les nazis, arborant un certain rire, ou en tout cas sourire, qui sait, à l'écran serait noté, voilà, nouveau écriteau, Cap Bucky Barnes, voilà, on remodifie un peu par rapport à celui qu'on a eu, un peu, hein, comme je l'ai dit, parce qu'il a quand même été barbu, voilà. L'Italien prend sa poêle et commence à les tabasser, donc là, hop, on se dirige sur un de nos trois personnages d'avant, en tout cas quatre personnages là, commence à les tabasser, voire jeter ce qu'il y a dedans, comme on a pu voir dans certains films d'action. Hein, on prend ce qu'il y a sous la main. Et s'il y avait quelque chose en train de cuisiner, il en brûle un. Et là, une nouvelle écrite aussi. Voilà, PVT, donc c'est
Private.
Private. Voilà, c'est un soldat, quoi. C'est un soldat de première classe, en somme, c'est ça que ça veut dire. Dino Manelli. À l'écran. Retour sur Nomad Rogers. N'oublions pas notre fameux Steve Rogers, anciennement Captain America. Encore, quoique il ne l'est pas, on ne sait pas trop. Enfin, vous découvrirez. Il commencerait à percevoir ses hommes à quelques mètres, tout en se battant avec les fameux soldats. Ils finissent par se rejoindre, nos quatre soldats américains, en quelque sorte, sont face à au moins 10 hommes. Et sur la dernière inscription qu'on voit à l'écran, pour l'intro, dit All-in Commandos. Donc voilà, c'est ça que je disais, 5 peut-être à 10 minutes, parce que c'est très punchy, comme vous avez pu l'entendre. Et là, je donne l'antenne à Martin pour la suite. Donc on imagine hein, le titre, petit générique de Marvel, quoique peut-être comme le podcast qui aurait déjà eu, mais une musique, peut-être la musique en fait, le thème général des Howling, qui prendrait ses premières notes ici. Et voilà, je redonne l'antenne maintenant à Martin, ouais, le mieux.
Tout à fait. Donc voilà, générique, générique court intégré au film, à la manière typique hein, des Marvel de ces dernières années. Donc là, ensuite, on reprend avec une scène un peu plus calme, puisqu'on retrouve la squad dans un camp militaire, apparemment allié, situé en forêt, qu'on imagine en forêt allemande, hein, vu que c'est là que l'action se passait. Et il y a Bucky, qu'on le voit, qui est en train de se soigner, probablement de son combat d'un peu plus tôt. Il y a Dino qui est en train de manger, Falcon qui fait se recharge en munitions, et Rogers qui est en train de se débarbouiller le visage. Il y a deux hommes qui rentrent dans leur tente, puisqu'ils sont dans leur tente. Il y a deux hommes qui rentrent, et donc voilà, il y en a un qui dit « Soldat, garde à vous !» Voilà, donc, tout le monde se met garde à vous. Et voici le lieutenant Fury. Et donc celui qui vient d'être appelé Fury, en fait, est un homme noir, assez charismatique. On imagine un genre de Michael K. Williams que vous avez pu voir dans The Wire ou Boardwalk Empire, qui est une série qui a déjà quelques années, mais qui est excellente, qu'on vous recommande.
Donc un acteur très marqué, pour coller à notre genre en cas de
voilà, bah, imaginez un gars qui rentre et qui se pose, quoi. Voilà, c'est qui dirait bon, il rentre, il fait bon, soldat à repos, voilà, vous avez une nouvelle mission et qui vient de m'être remise, voilà, et ensuite vous pourrez rentrer au pays. Vous devez aller récupérer les scientifiques Brian Xavier et Abraham Erskine, ainsi que stopper ceux qui se trafiquent dans le château où ils sont retenus. C'est une mission qui a été envoyée directement par Winston Churchill, puisque Winston, c'est aussi un ami de Fury dans cette histoire-là. Le château en question, c'est celui du baron Heinrich Zemo, 12e du nom, qui est un des fondateurs de l'Hydra, de sinistre réputation. Et vous devez évidemment réussir tout ça au plus vite et partir dès que vous pouvez. Et on vous déposera à 10 km de marche du lieu. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a Rogers, lui, qui regarde les hommes, qui se tourne, et puis ensuite qui répond à Fury. Bon, ça semble faisable. Il faut se laisser quelques minutes et on sera prêt. Bon, écoutez, bonne merde, les gars, et revenez en entier. Vous êtes les meilleurs dans ce domaine, évidemment, c'est The All-In Commandos. Et voilà, Nick Fury s'en va. Petit flashback, là, à ce moment-là. On serait un an ou deux plutôt, toujours en Allemagne. Ça pourrait être précisé via un écriteau. Et là, on verrait quelqu'un qui s'appelle Heinrich Zemo et son fils qui assiste.
On pourrait peut-être l'entendre.
Oui, hein, ou soldats, l'entendre ouais. Aussi, c'est possible. En tout cas, il faut que la précision soit donnée pour que le spectateur le sache. Mm. Et son fils qui assiste impuissant à ce qu'on pourrait penser être un viol. Voilà, ils sont mis en joue par des soldats américains et on entend une femme et en tout cas c'est une scène qui est pas facile.
Surtout, excuse-moi de couper, dans un Marvel. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un peu voilà, caché.
Aujourd'hui c'est hors champ. Hein. C'est du Disney, hein, comme on dit, ce serait hors champ.
C'est ça. Mais le genre de hors champ caché. Et puis amener ça dans un film sur des soldats américains, tu vois. Et du coup, démontrer autant chez les SS que chez les Américains, partout, il y a des nuances. Hein. Tout le monde n'est pas très sain dans sa tête.
Il y avait des pouilles un peu partout. Bon, en tout cas, cette scène de flashback dure maximum 5 minutes. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Et donc on pourrait voir Zemo regarder une des épées de la famille qui est accrochée au mur. Et là, réentendre des cris, des coups de feu en hors champ. Et on revient au présent. Donc les Holy Commandos sont équipés, voilà. Ils sont stuffés, comme on dit. On les voit partir dans une camionnette. Voilà, les fameux camions General Motors qui pullulaient dans l'armée américaine à cette époque-là en Europe. Mais ils finissent par tomber dans une embuscade sur le chemin. Voilà, il y a un des chauffeurs du camion qui se fait tuer. Il y a le copilote, lui, qui arrive à s'en sortir, in extremis, et lance une grenade sur les assaillants. Cet homme qui est grand, roux et baraqué, heureusement, il est très rapidement pris en charge par les Hollings, qu'on imagine avoir descendu en catastrophe la benne du camion. Et à ce moment-là, bon, Rogers pourrait dire comment est-ce que tu t'appelles, gamin? Même s'il est grand et baraqué. Donc lui, il dit, je m'appelle Fredian Jones. Et Rogers répond, bon, ok, Fred, les gars, entraîne pas. Éliminez-moi toute cette saloperie. En parlant des
On
soldats
peut,
ennemis, hein,
excuse,
évidemment.
ouais, excuse-moi. On pourrait là, bah, comme tu as dit, action. Peut-être que vous l'imaginez, un proche d'un, bah, pour le coup, d'un film qui se nomme Dunkerque, hein, vraiment où t'es pris dans le feu de l'action. Donc peut-être, voilà, il y a deux trois mots qui s'échangent, mais sur l'ambiance, porté par le son aussi, fortement. Genre, bah, si Fred là. Pour le coup, peut-être que tu l'as imaginé aussi, le coup des grenades et tout, qu'on aurait, on entendrait, voilà, comme quand tu t'as un son qui te pète un peu les tympans, voilà, ce genre de son-là, vraiment sur un truc très dramatique, porté
Voilà.
par la musicalité, musique, ouais.
Voilà. Donc forcément, comme c'est les Hollings, ils finissent par avoir le dessus aussi. Rogers envoie quand même Falcon s'occuper du véhicule pour voir s'il y a moyen de rouler avec. Il y a Bucky et Dino, eux qui finissent les derniers soldats ennemis. Et Fred et Rogers voient ce qu'ils peuvent récupérer en armement. Mais bon, hélas, le camion est complètement mort, inutilisable. Donc ils partent à pied. Dino part devant avec une carte. Et on les suit marcher pendant quelques heures jusqu'au début de la nuit. Bon, tout ça, c'est résumé en plan monté, donc pour avoir un rapide flash forward. Et ensuite, à un moment donné, ils voient une lueur dans les bois. C'est un feu de camp. Ils entendent des chants allemands. Et voit donc une escouade, apparemment des soldats nazis. Et donc, sans faire de bruit, simplement par le regard, Rogers s'organise avec les autres pour les prendre par surprise. Donc, rapide escarmouche. Vraiment, les Allemands ne s'attendaient pas à ça. Mais Fred en sortira blessé. Voilà, parce que bon, les coups de pas de bol, ça arrive pendant la guerre. C'est là qu'on voit que bah, même les Howling Commandos sont pas forcément invincibles, parce que Bucky pourrait avoir eu quelques difficultés également à maîtriser les soldats. Et c'est là qu'en fait, ils ont une bonne idée, puisqu'ils sont en pleine nuit dans la forêt allemande et surtout derrière les lignes ennemies. Ils se disent qu'ils peuvent mettre les uniformes des soldats qui viennent de prendre en embuscade. Par précaution, comme ça, s'ils tombent sur d'autres, ils pourraient au moins jouer sur un élément de surprise. Voilà, qu'ils enfilent les uniformes allemands et ils s'arrêtent pour dormir, parce que c'est la nuit. Donc, à un moment relativement convivial, ils en profitent pour manger et apprendre à connaître un peu Fred. Ça essaye de rigoler un peu, certains chantaient un peu, mais pas trop fort, faut rester discret. Et la nuit passe, Rogers se réveille, ce qu'il pense être le premier. Mais il n'est pas si premier que ça, puisqu'il s'inquiète de ne pas voir Dino sur le campement. Et en fait, celui, il le voit, hein, celui est en train de revenir d'une petite chasse, puisqu'il a des lapins morts dans les mains. Donc Rogers sourit en voyant Dino arriver avec ça. Et là, en fait, boum, énorme explosion. Enfin, énorme pour nous, pour le spectateur. En tout cas, une explosion très proche. Puisque tout simplement, Dino vient de marcher sur une mine. Donc là, ça réveille tous les autres. Consternation dans le campement. Fred, il est merde, 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 il sait plus quoi faire. Bucky a. Ouais,
Ouais, c'est un peu
ça, je
nocifique,
dis,
ouais, il est
là,
en stress
c'est
et
peut-être
tout.
même la première fois qu'il voit, ou en tout cas la deuxième fois, parce que C'est la première fois, c'était la veille, mais voilà, ouais. il vient de voir la mort de près. Il y a Bucky qui en tout cas est très attristé, limite un peu effondré. Et il y a Rogers et Falcon qui vont voir la dépouille très rapidement en tout cas, mais Rogers rattrape Falcon et lui dit non mais c'est pas la peine de s'acharner, il est Tobias, il est parti. Voilà. Donc ça ne traîne pas parce qu'il ne faut pas traîner. Il décide de récupérer leurs affaires et de vite s'en aller. Parce qu'en plus, bon, une mine, ça fait du bruit. Et ils reprennent le chemin. Ils font attention quand même au sol, le tapotant à divers endroits en marchant avec leurs armes, le canon de leurs armes ou leurs crosses, pour voir si effectivement d'autres mines ne seraient pas cachées dans des endroits stratégiques. Voilà. Maintenant qu'ils ont repris leur chemin, après cette nuit, en tout cas cette matinée un peu mouvementée, je vais laisser la parole à mon collègue.
Eh bien, merci. Du coup, voilà, dans cette petite balade dans les bois, est-ce qu'ils vont croiser le grand méchant loup-garou ? On ne sait pas, mais vous verrez bien. Non, pour plus de sérieux, donc voilà, plusieurs minutes passent. Précédemment, on avait eu des flash-forward, comme Martin l'avait si bien dit. Les quelques plans où ils marchaient dans les bois, là, on prend plus le temps. Voilà. Surtout avec les événements qui viennent de se passer pour créer un peu plus de lien et, entre les spectateurs et nos fameux soldats. Voilà. Donc, il y a ça. Bucky le rapprend et on le voit avec lui qui sont arrivés près du château de Zemo. Donc là, c'est plusieurs minutes après ce que je viens de vous dire. Ils avancent puis entendent qu'un véhicule se rapproche. Donc là, hop, ils sont proches de Buisson. On imagine, ils se planquent vite. Ils se coordonnent donc rapidement pour installer une fine corde aussi entre deux arbres. Ah voilà, des explosifs dans le sol de la route. Donc ils ont quand même le temps, ils l'entendent, mais c'est un peu loin. Le bolide finalement allemand arrive, les gradés dans échange, voilà, un petit truc, ils s'y attendent pas quoi. Et puis, nouveau boom, explosion. On peut imaginer, bon, on est sur un truc soft, hein, on est dans MCU. Truc peut-être pas décapité, mais ça fait des dégâts. Donc, vient à Rogers l'idée aussi, vu les récents événements et les habits qu'ils ont, de tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire d'y aller à pied, simulant des mots à l'entrée, surveiller du fameux endroit. Donc Rogers et deux, trois, ces hommes, y vont, pendant que d'autres sont installés un peu en retrait, peut-être en mode sniper, hein, sûrement Bucky qui est notre sniper du récit, on ne vous l'avait pas dit. Proche un petit peu du MCU, qui sait, voilà, sans vont le faire exprès. Donc Rogers s'approche du portique d'entrée, avec Bucky, de ce que je relis de mes notes, en soldat nazi blessé, hein, forcément, disons un genre de truc comme ça en allemand, « Allez, soldats, on a été attaqués », suivi par Falcon et Fred jouant aussi, les hommes étant à leur poste, hésitant un peu, voilà, ils ne savent pas... Tout est possible, hein. Ils disent peut-être sûrement que ce sont des espions, des Américains, des résistants, etc. Et ils n'ont pas peut-être forcément tort, hein, vu qu'on connaît nos personnages. On pourrait avoir un petit moment de tension, du coup, peut-être inspiré des jeux de regard, comme le grand Sergio Leone a su le faire dans Le Bon, la Brute et le Truand. Un coup pourrait partir d'un de nos protagonistes avant que d'autres SS nazis arrivent. Les Hulings cachent les corps, vite fait, on est dans l'action à nouveau. Donc je dis film de guerre, surtout film d'action sur fond de guerre. On serait au début de cette journée, ça c'est pour un petit élément. Il ne ferait pas donc très clair, les quatre Hulings avancent petit à petit. Là on se rapproche un peu de, je pense que ça te parle un peu, du film que je vous invite déjà fortement à regarder, Les 12 Salopards, donc avec un casting très alléchant, entre autres Lee Marvin, voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce cinéma rétro, c'est ça. Ayant donc fait du bruit et ayant été vu par des caméras, voilà, un peu cool, des nazis, voire agents de l'Hydra, hein, voilà, parce qu'on est Hydra, évidemment, les deux s'entremêlent et sont en adéquation, si je puis dire, débarquent en force, donc c'est une, on est quand même sur une fameuse demeure, donc il y a quelques agents, voilà, de l'ennemi, si on peut dire ça comme ça. Une tension reviendrait à monter aussi, vu que la demeure, comme je l'ai dit, est très bien gardée. Ils sont quatre face à beaucoup d'hommes. On pourrait avoir des plans proches de ceux de Gareth Edwards, donc réalisateur
Gareth Evans.
c'est pas Garrett le même, Evans, ouais, voilà. Pourtant, je l'ai noté, hein, mais c'est pour ça. En plus, je l'avais noté, j'aurais dû mettre en plus gros. Garrett Evans, qui a fait The Red ou encore Kings of London. Donc là, pour ceux qui aiment l'action, si on a des réals, en tout cas, on aurait une équipe technique. Nous, on l'imagine comme ça, proche. Voilà, c'est très proche des acteurs, des personnages. C'est très punchy, ça envoie des patates sévères. Sinon, ben, regardez ces fictions-là, hein, si vous n'avez pas cœur de l'idée, ou en tout cas, quelques extraits sur YouTube. Voir de BVS peut-être avec la séquence de Batman dans les docks, voilà. On reviendrait à un moment moins tendu là, donc après plusieurs minutes forcément, quand un adversaire déclarerait s'appeler d'un certain nom et être un agent double, un agent allemand collaborant avec les alliés. Donc déjà, chose très rare, je sais pas si toi t'avais eu des faits de ce genre de choses, mais il me semble que c'est...
De collaboration entre allemands et alliés, tu veux dire?
Ouais, qu'un soldat allemand, en tout cas un allemand, soit pas forcément.
Alors, nazi, oui.
Ou en tout cas content de l'être, et du coup,
bah non, en collabore. Fait, déjà, il y a le truc, c'est que les. On parle beaucoup de SS, là, parce que dans cette histoire, enfin, dans l'histoire du Marvel, là, les SS, donc eux qui sont nazis, en fait, collaborent avec l'Hydra. Et limite, il faut être un SS pour faire partie de l'Hydra. Mais il faut savoir que l'armée régulière, la Wehrmacht, ne faisait pas partie de la SS. Et donc, en fait, beaucoup des gens qui y étaient des conscrits qui n'étaient pas forcément nazis, qui étaient simplement là parce qu'on les avait un peu forcés à être là ou parce que c'était des soldats réguliers. Et donc, effectivement, il y a eu pas mal de cas de défection, ou en tout cas de passage de l'autre côté, où des soldats allemands se sont rendus et ont collaboré avec des forces alliées, que ce soit américains, anglais. C'est arrivé, oui.
C'est ça. Du coup, merci à toi de le confirmer. Et puis, ben, voilà, ça rajoute, bien que, comme on l'a dit, c'est surtout un film d'action, vous le remarquez, sur fond de guerre, inspiré d'Overlord, hein, qui lui a du fantastique aussi. Mais on rajoute, c'est un film qui se veut histo. Donc il faut aller avec un brin de réalisme quand même, voilà, pas non plus être trop dans la fiction parce que c'est du super-héros. Et du coup, en revenant à ça, ben, notre allié allemand, en gros, en étant tombé sur notre Falcon, voilà, notre soldat Wilson à nous, se surnommerait en tout cas Bob. Donc voilà, gros clin d'œil, hein, pour ceux qui connaissent l'univers des comics, surtout de Deadpool. D'ailleurs, le personnage apparaît aussi dans le premier film Deadpool, hein, où le gars a une brève conversation avec Wade Wilson. Voilà. Donc en gros, bah, c'est un membre de l'Hydra qui sert un peu de comic relief dans certains comics du Deadpool, du schizo mercenaire. Donc voilà, on imagine que Falcon et Bob partent de leur côté. Rogers leur fait comprendre de rentrer donc dans le château, évidemment, et qu'ils ne tardent pas. Nomad Rogers, Bucky avance, Falcon, Bob partent de leur côté. Donc voilà, vraiment deux petites équipes de deux, ils partent dans des coins différents du château. Fred pourrait être gravement blessé parce qu'on le rappelle qu'il faut secourir les scientifiques Brian Xavier et Abraham Erskine, grand allié aussi de Churchill, voilà, dont Fury et les Unis Commandos ont eu les ordres d'aller les chercher et de voir plus ou moins ce qui se passait dans le château. Fred, peut-être grièvement blessé cette fois-ci, voilà, ferait comme il pourrait, suivrait peut-être le Rogers et Bucky de quelques mètres. Donc eux deux arrivent dans, voilà, certaines profondeurs du château, après avoir affronté, voilà, pendant plusieurs minutes certains soldats dans la demeure, évidemment, dans un sombre lieu, en fait, dans peut-être des caves, là, proche aussi de Overlord, les labos. Les deux hommes, côte à côte, sont sur leur yacht avant de découvrir les mystérieuses expériences de Zemo et ses scientifiques. Donc là, ben, je l'ai dit, Overlord, plusieurs fois, on est sur des trucs très proches. Et en fait, ça fait écho, quelque part, aux Ultimate X-Men, où on a eu des manipulations génétiques qui fait déjà très écho, en fait, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, Martin pourra aussi vous confirmer aussi que ça existait, les trucs, en fait, les recherches des soldats nazis, en tout cas des docteurs Des profs, ouais, docteurs, professeurs qui faisaient des expériences pas très saines hein, non plus oui. sur des,
ouais,
sur
ouais,
des
oui. juifs. On est dans les camps voilà. de concentration, on n'était pas.
C'est ça.
C'était pas les X-Men, hein, mais c'était
ouais,
pas
malheureusement pour eux. Non,
c'était pas aussi gay. Mais...
Voilà. Donc je me suis dit que c'était bien placé de faire ça. Enfin. Que là, pour la référence, bah, elle devait être là. Les gens sont sur des tables d'opération, voilà, vous vous en doutez. Certains meurent, etc. Et donc là, pour le petit écho mutant, certains pourraient se solidifier en briques. Certains, comme on a pu le voir dans des films Deadpool, avoir des os qui sortent de leur corps, deviennent des projectiles. Enfin voilà, imaginez comme bon vous semble des pouvoirs que vous aimeriez voir sur certains. Un homme massif sort de la pénombre, un peu comme Batista dans Blade Runner 2049. Il prend Rogers et commence à le tataner. Voilà, on est proche, comme je vous ai dit, de la baston entre Gosling et Batista dans ce film éponyme réalisé par Denis Villeneuve il y a quelques années. Steve, du coup, très occupé, laisse Bucky, délaisse un peu sans trop le vouloir, hein, dépassé par les événements. Bucky cherchait les scientifiques, donc sur ses gardes avec son fusil un peu sniper. Il en abat quelques-uns, et puis, ben voilà, en s'aventurant, il finit par entendre des voix. Je l'ai dit, je l'ai rappelé, les scientifiques Erskine et Xavier. Donc, Xavier, voilà, on imagine peut-être scientifique britannique, voilà, pour l'anecdote. Finissent par être sauvés par lui. Voilà, donc ils sont trois, ils récupèrent des armes sur les soldats morts. Ils continuent de. Voilà, ils savent qu'ils doivent sortir au plus vite, hein, parce que ben, c'est pas un lieu très sain. On passe de ce moment à celui de Rogers. Donc voilà, on revoit un peu l'affrontement entre les deux. Et puis, quelques instants après, on revient à Falcon et Bob, qu'on avait perdu depuis déjà quelques minutes là. On les retrouve d'ailleurs dans une salle de contrôle et leur disant que les Allemands ont lancé un contre-bourre. Donc là, ça pourrait être Falcon qui serait au micro. Avant de voir Zemo, épée à la main, se lancer vers Falcon. Hein, donc Heinrich Zemo qui avait perdu sa famille il y a quelques années, là, et déterre. Voilà, parce que ben, c'est son château, comme on avait peut-être pu vous le préciser avant. Bucky entend l'appel et fait un signe à la caméra pour lui dire que tout est bon pour lui, avec les scientifiques qu'il a sous son aile. On se retrouve déjà peut-être à une heure de film, voire un peu plus, hein, avec toute l'action qu'il y a eu. On est un peu perdu, mais peut-être une heure. Le bâtiment commence à exploser partie par partie, on ne traîne pas, hein, les nazis. Il y a l'ennemi qui est là, bah, autant se faire sauter avec, voilà. Il ne faut pas laisser de traces. Ils sont prêts au sacrifice, hein, comme on le voit, le gros clin d'œil aussi dans The Mandalorian avec les capsules de cyanure, c'est à peu près pareil, plus ou moins, sauf que là, l'anecdote est plus. Enfin, le clin d'œil va plus loin. Parce que, enfin, et même si on veut toujours rester dans l'univers du MCU, dans le premier First Avenger, donc le premier Captain America, First Avenger, le personnage campé par l'acteur principal de. La trilogie du Hobbit, voilà, je ne sais plus son nom, l'acteur Hugo britannique. Je ne sais plus, mais enfin, je pense que tu vois, celui, l'espion là, qui a tué Erskine dans First Avenger, avait une capsule, une dent. Oui. Voilà.
Donc,
ok. On pourrait avoir ce genre de truc aussi dans les passages d'action, là, quand Cap et les autres se battaient avec les soldats en extérieur, donc ça, c'est genre. Laissez votre imagination comme bon vous semble. Voilà. Allez dans ces coins-là. Bucky voit que son sergent est encore occupé. Donc, ben voilà, malheureusement, le regard est là, mais il peut. Faut y aller. Donc, il laisse. Il connaît les capacités de Captain. Donc, là, vous avez compris, à mon avis, il avait eu le sérum. Mais c'est pas. On n'était pas sûr. Ben, on reboot. On apporte un autre angle de vue, donc on n'est pas là pour montrer les capacités du Captain, mais sur l'humain. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi avec Martin Mécotillé aujourd'hui. En quittant le château, Xavier se fracturait par un agent de l'Hydra d'un coup de couteau. Voilà, on imagine un truc comme ça. Coup de feu rendu, les hommes sont tués. Bref, le château explose, les deux hommes sautent du pont, donc il reste là pour le coup Erskine et Bucky, qu'on imagine donc en vie par rapport aux autres. Tombe dans l'eau, on peut donc là on est presque on imagine que c'est la fin, on peut imaginer les suivre quelques instants dans cette eau, qu'on les retrouve un brin de temps après celui-ci, essoufflé et attristé sur un bord sur le bord du ruisseau, voilà. Ouais, du enfin quelque chose de plus grand ruisseau évidemment. Et là, on pense que c'est la fin, mais comme je l'ai dit, peut-être pas spécialement, scène pré-générique finale. On y verrait le caporal James Bucky Barnes être récompensé, voilà, avoir une médaille pour ses actes de bravoure. Et là, véritable, si je puis dire, scène post-générique, on voit des soldats américains sur les lieux de l'explosion du château allemand. L'un d'eux se ferait appeler le capitaine William Stryker, voilà, pour ceux qui ont vu les films X-Men, entre autres. Et un de ces hommes lui dirait avoir trouvé le corps de trois personnes. Mais qui sont ces trois personnes ? Martin va vous donner la fin de cette fanfiction dédiée à ces soldats américains, entre guillemets.
D'accord, bah écoute, ces trois personnes sont bien particulières parce qu'il y en a deux dont les blessures qu'on pourrait voir se soignent très rapidement. Voilà, ça va peut-être rappeler des choses à certains. On pourrait voir ceux-là sur des brancards et l'un d'eux aurait des énormes favoris, voilà, des rouflequettes. Avec un look proche du Old Man Logan du comics. Et le second serait en fait notre bon vieux Steve Nomad Rogers, donc le sergent. On penserait que là, ce serait que la finale, puisqu'on s'arrêterait sur le visage de Rogers, mais non, parce qu'il y a encore une autre vraie fin en dessous. Alors le film pourrait faire peut-être 1h30, peut-être un petit peu plus. Voilà, l'idée, c'est qu'on veut que ce soit vraiment un film d'action. On ne veut pas que ce soit un truc dans la durée. On s'est concentré, voilà, on se concentre sur 24 heures d'action et puis il y a un possible développement. Mais on ne va pas chercher à expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, maintenant, vraie fin post-générique. On est dans les années 70. Nouveau-Mexique, encore une fois, peut-être précisé par un encart. Steve Rogers dans un costume bleu marine, blanc et rouge, et arborant une étoile et se faisant appeler Captain America, le costume bien connu, et rentre dans une pièce où là on entendrait et reconnaîtrait la voix d'Heinrich sous un masque mauve très très collé à la peau, voilà, limite moulant, comme si, oui, exactement, comme s'il était collé directement à la peau. Et accompagné par un homme qui aura donné pas mal de fil à retordre un peu plus tôt à Rogers, et avec les deux arborant un brassard nazi, donc le fameux brassard rouge à croix gammée. Et ceux-ci sont nommés en fait Nathan Milbury et Jacob Shaw. Là, des enfants rentrent dans la pièce, ils sont en train de jouer. Ils seraient trois enfants. On imagine qu'ils seraient grondés parce qu'ils viennent. Ils viennent un petit peu agiter tout le monde et on leur dit de se calmer. Là, celui qu'on imagine le plus vieux irait près de Zemo, voilà, parce que son fils, en fait, ce serait son fils prénommé Helmut, qui regarde lui avec férocité l'ancien sergent. Et l'un irait près d'un homme baraqué et le dernier, qu'on estime par rapport à la taille âgée d'à peu près 10 ans, rentre en communication et par télépathie, voilà, avec Rogers. Donc sans parler, il rentre en télépathie avec lui. Et le dernier étant, voilà, pour ceux qui sont encore assez fans et qui auraient compris, et ben ce dernier, c'est Charles Xavier, le futur professeur X, directeur des X-Men. Voilà. Heinrich, fin. Heinrich serait évidemment dans cette histoire le troisième homme retrouvé en vie par les Américains et qui l'ont pris pour travailler pour leur gouvernement, donc ici pour le gouvernement et puis après pour peut-être même le SHIELD, qui sait, on verra bien. Et ça fait également un écho à ce qui s'est passé dans la réalité. Alors c'était pas avec des mutants, mais c'était avec des scientifiques. Et notamment tous les scientifiques de l'opération Paperclip qui ont été invités à travailler aux États-Unis, que ce soit dans le programme spatial ou que ce soit même dans d'autres sociétés publiques. En tout. Même la CIA, ouais, oui, il y en a eu plusieurs. De toute façon, certains ont accepté de faire parfois une petite peine de prison et puis de changer d'identité. D'autres encore, ceux qui n'avaient pas fait de trucs trop graves, on leur a offert une amnistie complète en échange de travaux. Voilà.
Voilà. Du coup, si vous voulez un truc proche déjà de ça, moi je vous invite à regarder, je sais pas si tu l'as vu, la série Hunters, voilà, avec Logan Lerman et Al Pacino, oui, entre autres, ouais. Qui fait pas mal de clins d'œil à l'univers des comics, mais pas que, mais surtout à ça, voilà, du sujet dont on parle. Donc, si vous ne l'avez pas vu, et que vous aimez ce qu'on vous a raconté ici, que vous voulez vous plonger un peu dans ce genre d'univers, hein, bien que c'est pas quelque chose de très joyeux, mais que vous aimez un peu regarder ça, ben, n'hésitez pas, c'est Hunters, ouais. Disponible sur Amazon Prime Vidéo. Ben oui, Martin, tant qu'on a parlé de la série, hein, ton avis en quelques mots,
vu que c'est pas vraiment le sujet du jour. Oui, écoute, Hunters, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait le casting, la façon dont fonctionne le groupe de personnages principaux, ça m'a vachement rappelé du cinéma à la Tarantino. Enfin, de toute façon, la filiation, elle est directe là-dessus, elle se voit très bien. Pacino, moi je suis un gros fan. Je dirais qu'il y a peut-être un peu de Scorsese dedans, mais enfin, surtout sur le Tarantino. Ça fait également écho à certaines choses vraies qui se sont passées, parce qu'il y a eu effectivement certaines personnes, notamment un couple, je ne me souviens plus de leur nom, qui se sont mis à traquer les anciens nazis, en Amérique du Sud notamment. Ça ne s'est pas passé avec autant de fusillades et de violences que dans la série. Mais...
Ouais, non, sans doute bien, ça prend la guerre froide, hein, ça prend
une année. Mais voilà, c'est disons que la série, voilà, il y a certaines séries qui valent pour leur grand spectacle, d'autres le valent pas pour leur personnage, et je pense sincèrement que Hunters est une série qui vaut pour ses personnages. L'histoire est assez. C'est une histoire assez standard, avec quand même des rebondissements scénaristiques. Assez dingue, ouais, qui mérite quand même qu'on s'y attache. Mais pour moi, ce sont la grande force, c'est les personnages. Voilà.
C'est ça. Ouais, ok. Merci à toi. Donc voilà, petite minute bonus. Hein, première fois qu'on le fait, mais parce qu'on était dans le thème aussi. Donc Hunters, hein, comme je l'ai dit, sur Amazon, toujours disponible. Oui, tout à fait. Normalement. Pour revenir, on est toujours dedans. Pour les auditeurs, si jamais certains écoutent jusqu'ici, ton avis, comme on le fait souvent, ta petite rétrospective de cette fanfic.
Alors, ma rétrospective de la fanfic, je vais te la sortir. Moi, c'est une fanfic que j'ai appréciée pour son côté direct. On a pu en faire auparavant, qui était sympa, que j'ai aimé parce que j'aimais les personnages. Je pense notamment à Superman et à la première de Superman. Qui par contre prend beaucoup plus son temps parce que
c'est une origin story. Parce que voilà, c'est Superman malheureusement, le traitement au cinéma, hormis Man of Steel, il n'y a eu que deux grands traitements.
Voilà, et puis c'est surtout que c'est un univers extrêmement riche qu'il faut installer. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les films.
Avec plein d'infos.
Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop les démonstrations, les explications. Moi personnellement, ça ne me dérange pas si vraiment si je suis attaché au personnage, mais je conçois que ça puisse gêner. Là, l'idée, c'était, comme tu as dit, de faire un film d'action. Donc du coup, on fait un film d'action. Tu parlais effectivement un peu aussi de Gareth Evans, The Raid. C'est exactement ça, The Raid, exposition très très courte, 5 minutes. On dit il faut aller arrêter un baron de la drogue dans un immeuble. On prend une équipe de flics, on va arrêter le baron de la drogue. Et on fait un film d'une heure et demie sur peut-être une action de 6 heures ou 10 heures au total. Et ça va très vite. Voilà, c'est vif. C'est une unité de temps, de lieu d'action. Et là, c'est un petit peu cette atmosphère. On prend une équipe de gars balèzes. On leur dit il faut aller libérer des gens dans un château. Boum, on part tout de suite. On le fait et ça dure 24 heures. Et finalement, en fait, c'est ce film d'action qui va être un petit peu une exposition des personnages. Voilà. Après, quand on reparlera des Howling Commando dans l'univers, on saura qui c'est, on saura ce qu'ils ont fait. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est un standalone qui se suffit. Enfin, bien dire ce que ça veut dire, c'est que les même les gens qui n'ont pas envie de fouiller l'histoire de Howling Commando, ils peuvent apprécier. Et ceux qui veulent le rattacher au MCU, ils trouveront leur compte aussi, parce que notamment, on le voit à la fin, il apparaissent des personnages importants. Je pense en premier lieu notamment à Charles Xavier. C'est quand même pas rien pour la suite. Donc ça fait, voilà, on rattache les wagons au MCU, mais en même temps, on peut le voir tout seul. Et je pense que une histoire comme ça qui serait mise en scène de façon péchue, avec peut-être une pas avec forcément beaucoup de moyens, mais un truc péchu. On a beaucoup parlé d'Overlord, mais parce que Overlord, c'est ils sont ouais en fait ils ont réussi avec peu de budget, mais avec beaucoup d'énergie à faire un film très sympa. Et si Howling Commandos, en tout cas si Howling Commandos pouvait avoir la même énergie, je pense que ça le ferait. Voilà.
Eh ben, merci à toi, c'est très cool. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Évidemment, le prochain épisode, nous, la différence avec notre DCU, voilà, en guillemets, c'est que là, un peu à plan du Marvel, 6 films, voilà, 6 fanfictions par phase. On espère d'ailleurs que la première sera bouclée. Hein, il reste Flash et The Justice League. Ici, ben, le prochain sera sur Ant-Man, qui sera intitulé The Astonishing Ant-Man. Donc là, je reprends des titres éponymes des tout premiers comics sur les personnages. Et puis, se bouclera par un Avengers, évidemment, mais versus Hydra. Voilà, ce n'est pas une grande surprise, je pense, pour ceux qui nous auront écouté jusqu'ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme Martin le comprend, ben, j'essaye d'apporter, suivant les personnages aussi, de garder chacun leur univers, les qualités de chaque personnage, leurs forces. Là où je peux faire le parallèle avec DC surtout, parce que la première chose, je suis à fond dans DC. Superman, en remémorant les choses, ben, c'est que lui, à travers ses films, tu me diras, ben, j'essaie de me consacrer sur l'homme, le sauveur. Voilà, c'est un peu proche de la version Snyder, mais parce que Superman, c'est ça. C'est le sauveur, c'est le messie. Batman, le détective. Et Wonder Woman, la guerrière. Là, Captain America, tu ne peux pas faire autrement, pour ma part, de prendre l'angle de vue de la guerre. Ou si on est sur quelque chose de plus moderne, comme on l'a fait pour le tout premier épisode du géopolitique. Donc finalement, des genres qui se rapprochent du MCU, mais j'ai quand même réussi à faire des trucs différents, comme on vous l'a dit. Donc voilà, comme quand on se penche un petit peu en faisant ce petit travail de fin d'écriture que je trouve appréciable, hein, voilà, pour le côté créatif. Et puis si jamais certains comme moi veulent se lancer dans le court-métrage, voire dans la réalisation, etc., que ce soit lié à des fanfictions ou tout simplement de l'œuvre originale, je trouve que c'est un bon travail de début. Je sais pas, je te donne le mot de la fin, si tu veux. Et je vous dis à bientôt pour le prochain, alors, pour Ant-Man, qui sera de l'espionnage.
L'espionnage. Écoutez, ouais. Ce sera peut-être un peu plus... En tout cas, j'espère que ça arrivera plus tôt que le fameux James Bond, encore repoussé. ouais. Voilà. Bon, écoutez, moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt, voilà, avec le fameux espion miniature, pour ceux qui connaissent déjà un peu Ant-Man. Et ben, je vous invite aussi à réécouter l'ensemble des émissions, ou en tout cas, les émissions qui peuvent vous intéresser, et sur les Berserkers Media Chronics. Voilà.
Merci. Eh bien, merci et à la prochaine, les gars. À la prochaine, ciao. Berserkers MC. Voilà.